pouvons tous faire vibrer notre vie personnelle et professionnelle au rythme de notre cœur et de notre être véritable. Chaque jour, je vous accompagne à oser une vie libre, épanouie et inspirante. Je suis Frédéric May, coach et créateur de sens et de potentiel pour l'être humain, et bienvenue sur ce podcast Osez ma vie. Bonjour à tous les explorateurs Osez ma vie, nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir Aymeric Le Breton, docteur en psychologie, écrivain, formateur, président et cofondateur d'Orient Action. Aymeric, salut et merci d'avoir répondu présent à mon invitation, c'est un réel plaisir de te recevoir dans cette émission Osez ma vie.
Merci. Bonjour à tous.
Alors, Osez ma vie, c'est le podcast qui permet d'imaginer, d'initier et de créer la vie que vous voulez. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble à travers ton chemin, Aymeric, tes moments forts et tes clins d'œil, comment tu as osé ta vie, comment tu inspires et tu aides aujourd'hui des milliers de personnes et comment s'y prendre pour tous ceux qui voudraient oser leur vie. C'est OK pour toi ?
Ouais, c'est OK.
Alors, j'aimerais tout d'abord dresser un rapide portrait de toi, si tu es d'accord, mais surtout, tu n'hésites pas à me corriger si je me trompe, bien sûr. Alors, Aymeric, tu as 43 ans, c'est bien ça ?
C'est ça.
Tu es un passionné de l'humain, tu es docteur en psychologie et tu restes encore impliqué aujourd'hui, d'ailleurs, dans la recherche en sciences humaines. Depuis 15 ans, tu diriges le groupe Orient Action, spécialisé en évolution professionnelle dans toute la France, et tu es également l'initiateur de la PsyAction et de son réseau de cabinets spécialisé en psychologie de la santé. Tu es aussi enseignant et formateur, consultant, mais également écrivain, puisque tu as plus d'une vingtaine d'ouvrages et romans à ton actif, dont « La PsyAction, la psychanalyse du XXIe siècle » et « Ce que j'aimerais te dire » pour n'en citer que deux, que je connais. J'aime beaucoup ces valeurs de liberté, d'exploration et d'action que tu diffuses au travers de tout ce que tu fais et tout ce que tu donnes. Et finalement, tu es un peu un aventurier de la psychologie moderne. Mais Aymeric, dis-moi, qui es-tu vraiment ?
Voilà, c'est une question d'une grande profondeur pour démarrer le podcast. Alors effectivement, dans la présentation que tu fais, je suis assez éclectique, c'est-à-dire que je m'intéresse à beaucoup de choses, du moment que je suis en action autour de cette question de l'humain. Mais si je devais, résumer un petit peu ce qui m'anime ou ce qui me fait avancer dans la vie, c'est effectivement toujours essayer de mieux comprendre comment fonctionnent les êtres humains et essayer d'apporter, d'inventer, parce que j'aime inventer, des solutions pour mieux les accompagner, mieux les aider à être heureux. Je pense que c'est autour de cette thématique et de cet objectif, en tout cas, que je m'anime vraiment à essayer de faire en sorte que les gens aient une vie meilleure.
Alors, si tu veux, pour approfondir un peu tout ça, on va parler un petit peu de ton parcours. Et pour commencer, je voudrais savoir si ton enfance te prédestinait à devenir qui tu es aujourd'hui.
Alors, mon enfance, non, je ne crois pas. Je suis pas né dans un milieu intellectuel, enfant de classe moyenne, mais pas un milieu intellectuel. Donc, des personnes, on va dire, plutôt normales. Alors, avec des valeurs sociales, quand même, par contre. Je pense qu'il y avait des valeurs dans ma famille, en tout cas une préoccupation pour que la société fonctionne bien, progresse. Mais il n'y avait pas... Je ne pourrais pas trouver d'éléments qui seraient vraiment des éléments, comme une filiation, par exemple, ou une personnalité inspirante dans ma famille qui m'aurait attiré vers ce domaine-là. Je crois que ça s'est fait vraiment plutôt au gré de mes rencontres extra-familiales.
Et alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'orienter vers la psychologie, puis plus tard, vers l'accompagnement en évolution professionnelle ?
Bien, écoute, la psychologie, alors c'est un peu un hasard ou comment dire. En fait, j'ai fait mes années lycée, hein, comme tout le monde, et puis à la sortie du lycée, comme beaucoup de gens, je ne savais pas vers quoi m'orienter. Et je me souviens que j'avais commencé une année de STAPS, donc c'est les études pour devenir prof de sport. Mais alors moi, j'avais fait cette année-là, pas pour devenir prof de sport, mais juste parce que j'avais envie de... j'avais pas assez fait de sport pendant mes années lycée, je m'étais dit tiens, je vais faire une année d'études, comme ça va me permettre de m'entraîner, de découvrir cet univers. Ça m'a pas du tout plu, Et à l'issue de cette année de STAPS, en fait, bah, je cherchais une orientation. Et ouais, il y avait la psycho, j'avais un ami qui voulait faire psycho. Et c'est vrai que je suis parti dans cette aventure-là sans trop savoir ce à quoi j'allais m'attendre. Donc, je dirais, en fait, il n'y avait pas vraiment une intention, une passion. Je sais que j'aimais beaucoup écrire. Ça, l'écriture, ça a commencé assez tôt chez moi, vers 15 ans. Où j'ai commencé à écrire et j'écrivais assez régulièrement. Ça, l'écriture, ça serait ce qui irait de plus ancien. Mais la psycho, c'était pas forcément quelque chose auquel je me prédestinais. Et l'accompagnement en évolution professionnelle, ça va arriver parce que je vais trouver un premier job de psychologue du travail. Et c'est en 2003. Et c'est là où je vais commencer à accompagner des personnes dans des projets de reconversion ou de réflexion professionnelle. Donc ça fait tout juste 20 ans.
Et alors, qu'est-ce qui fait le lien maintenant entre ce parcours et la création, à un moment donné, d'Orientaction ?
Alors, bah, une fois qu'en fait, je vais travailler hein, dans l'accompagnement des évolutions professionnelles à partir de 2003, et je vais continuer en fait en parallèle de mon doctorat à travailler, parce que bah, j'ai besoin de... Déjà, je suis déjà assez hyperactif à l'époque, et puis j'ai besoin de travailler en plus de la recherche. Et en fait, en 2008, quand je décide de créer mon entreprise, mais finalement, ça me paraît presque évident de m'orienter vers l'évolution professionnelle. Alors, c'est ça qui est un peu étonnant dans mon parcours, en tout cas quand je prends un peu de recul en répondant à tes questions, c'est qu'en fait, j'ai jamais vraiment décidé d'aller vers l'évolution professionnelle. C'est un peu quelque chose qui s'est offert à moi par opportunité plutôt que par choix. Et par contre, paradoxalement, de l'évolution professionnelle, c'est ça qui m'a amené vers ce qui m'anime, ce que je décrivais au tout début de l'interview, vraiment la compréhension de l'être humain. C'est-à-dire que finalement, je suis rentré par la porte du travail pour comprendre les êtres humains, et ça m'a ouvert tout un univers que j'ai élargi progressivement pour comprendre comment fonctionnent les êtres humains. Et notamment grâce à une chose qui est extrêmement importante, qu'on trouve dans les évolutions professionnelles, et qui est le changement. En fait, je crois que c'est le fait d'avoir rencontré des personnes qui étaient en train de changer qui m'a permis vraiment de découvrir comment fonctionnaient les êtres humains et d'élaborer bah, de nombreux modèles théoriques et des outils pratiques que j'ai créés. Parce que quand quelqu'un change, il se passe quelque chose de particulier qui fait qu'elle se révèle, en fait. Et que tout ce qui était caché devient visible. Et ça, ce n'est que pendant la période de changement que tout ça, ça devient visible. Sinon, c'est un peu caché, si tu veux. C'est pendant la période du changement, quand une personne change, il y a comme des mécanismes qui se révèlent et qui deviennent évidents. Voilà.
Alors, on va en reparler tout à l'heure parce que pour arriver au changement, bien sûr, il y a tout un parcours du combattant qui traverse les peurs, les croyances, les pensées, tout ce qui peut nous limiter. L'enfance qu'on a eue peut aussi limiter le changement. Donc ça, on reverra tout à l'heure. Donc on va continuer d'accord. Un petit peu sur ton parcours, si tu es d'accord. Et moi, j'aurais voulu te demander, qu'est-ce que toi, tu as osé pour en arriver là où tu es aujourd'hui ?
Qu'est-ce que j'ai osé ? Bah écoute, déjà j'ai osé rompre avec une tradition familiale. C'est-à-dire que, en fait, dans ma famille, dans mes deux familles hein, d'ailleurs, en fait, la création d'entreprise est associée à des drames. C'est-à-dire que ce soit ma famille maternelle ou ma famille paternelle, elles ont chacune eu une tragédie liée à la création d'entreprise. Mon grand-père maternel s'est suicidé après avoir fait faillite. L'un de mes oncles, dans la famille de mon père, lui ne s'est pas suicidé, mais il est tombé dans l'alcoolisme. Et puis, il est mort prématurément. Du fait aussi, enfin, c'est associé en tout cas, est-ce que c'est la cause, j'en sais rien, mais c'est associé quand même à la création d'entreprise. Et finalement, de tous mes cousins, cousines, frères et sœurs, je suis le seul qui a osé finalement renouer avec cette tradition familiale, parce qu'il y a quand même dans ma famille une tradition d'entrepreneuriat. Et j'ai osé renouer avec ça. Alors ça posait pas mal de problèmes, mais je pense que voilà, ça a été ça, c'est oser finalement créer, ça créer l'entreprise. Je pense que ça a été vraiment ce que j'ai osé faire, le plus important.
D'accord. Est-ce que tu te sens aujourd'hui plus entrepreneur, plus psychologue, plus écrivain, plus consultant, plus formateur?
Bah, c'est vrai que c'est des questions que je me pose souvent parce que quand on exerce un métier, on a une identité qui est plutôt monolithique, quoi. Voilà, si on dit je suis avocat ou je suis, je sais pas, moi, je suis vendeur, voilà, là, on a une identité, on fait un seul métier. C'est vrai que quand on est chef d'entreprise, on touche à différentes thématiques et on a une liberté d'action qui est assez grande. Donc, parfois, on a des questionnements comme ça de savoir qu'est-ce qu'on est le plus. Bon, moi, je pense que très clairement, l'écriture, c'est vraiment un fil rouge. Et je pense que j'ai commencé voilà, à 14-15 ans et je pense que j'écrirai jusqu'à la fin. Donc ça, c'est vraiment un point très, très important, l'écriture pour moi. Mais l'écriture, elle est alimentée aussi par l'entrepreneuriat et par les rencontres, les difficultés, les événements qui finalement surgissent dans ma vie d'entrepreneur. C'est une vie assez difficile, hein, la vie d'entrepreneur, surtout quand on a une entreprise de la taille d'Orientation. C'est voilà, il y a quand même pas mal d'épreuves à surmonter, de choses à comprendre, et donc ça nourrit aussi énormément mon écriture. Donc c'est vrai que je dirais voilà, aujourd'hui c'est l'écriture, l'entrepreneuriat, les deux caractéristiques qui me définissent le plus, mais avec un point extrêmement important qui est l'humanisme, quoi. Voilà, je ne peux entreprendre que pour essayer d'améliorer la vie des autres. Je peux pas me lancer dans des projets qui ont juste pour finalité l'argent, par exemple. C'est pas c'est ça peut pas être un moteur suffisant. Voilà.
D'accord. Alors moi, je voudrais savoir aussi si sur ton parcours, est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont particulièrement inspiré et qui t'ont donné envie d'être qui tu es aujourd'hui?
Des personnes qui m'ont inspiré. En fait, ce qui m'a beaucoup inspiré, bon, déjà, je dois à mon ex-femme de m'avoir fait découvrir tout l'univers du développement personnel que je connaissais pas. C'est-à-dire que j'avais fait des études de psychologie, mais je ne connaissais pas l'univers du développement personnel. Avec tous ces auteurs, bon, c'est des livres assez célèbres, mais comme Dale Carnegie. Finalement, c'est moins des personnes physiques que des auteurs de livres, alors beaucoup d'auteurs américains, mais qui finalement m'ont fait découvrir une psychologie beaucoup plus pratique, beaucoup plus ancrée dans la vie quotidienne, avec des objectifs. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a inspiré le plus.
Alors, à contrario, est-ce qu'il y a des personnes qui ont tenté de te décourager sur ton chemin?
Bah, je le citais en fait, et ça on le verra dans toute transformation ou dans tout changement. Souvent, ce sont nos proches en fait qui essayent le plus de nous décourager. Alors inconsciemment ou consciemment, le plus souvent inconsciemment, on va dire. Mais effectivement, dans ma famille et même encore aujourd'hui, cette vie, ces choix n'ont jamais fait l'objet d'un n'ont jamais été acceptés totalement, en tout cas ne sont pas reconnus et ne sont pas valorisés du tout. Voilà.
D'accord.
Et ça, c'était le plus dur. Parce qu'en fait, malheureusement, même si j'ai encore des relations avec des membres de ma famille, hein, je ne suis pas totalement coupé, mais malheureusement, il y a eu un éloignement obligatoire pour pouvoir vivre ma propre vie et vivre mon envol. Et ça, c'est dur. Parce que je suis quelqu'un de très attaché à la famille. J'aime beaucoup tous ses membres, mais malheureusement, à un moment donné, ils ont pas, ils comprennent pas, ils soutiennent pas. Ils ont peur aussi parce que, bah, comme j'expliquais, j'ai quand même deux tragédies qui sont associées à l'entrepreneuriat dans ma famille. Et du coup, c'est vraiment ça les obstacles qui ont été les plus forts. Oui, c'est ça. C'est finalement les gens que j'aime le plus ou les gens dont j'étais le plus proche qui ont été les freins les plus importants à ma vie.
D'accord, mais aujourd'hui tu as évolué, on peut dire que tu as réussi. Est-ce que leur regard est le même ou ils ont changé un petit peu de fusil d'épaule et...
Non, pas totalement. Ah oui, ils commencent à accepter en tout cas, mais c'est vrai qu'ils sont pas. Ben ça reste. En fait, je me suis quand même engagé dans un chemin qu'ils comprennent. Voilà, maintenant ils comprennent pas forcément, et parce que c'est pas leur mode de vie. Par exemple, je prends un exemple très concret. Bon, là, je suis en interview. Je suis à Venise, là, je suis parti quelques jours en vacances avec ma fille. Et par exemple, quand je pars en voyage, que je voyage quand même assez régulièrement, ils ont du mal à comprendre ce que c'est. Pour eux, c'est des vacances. Et en fait, moi, je ne suis jamais en vacances. C'est-à-dire que quand je suis en voyage, j'ai toujours, pas forcément des interviews, mais soit j'écris, soit j'ai quelques réunions. Et donc, c'est très difficile de faire comprendre que ben non, ce n'est pas des vacances, en fait. Je ne sais pas si je suis clair, mais en fait, les codes,
Tout à fait clair, oui.
voilà, ça rentre pas dans leur schéma mentaux, en fait, à eux, qui pour eux, ben voilà, quand on est en vacances, on est en vacances, on ne travaille pas. Alors que moi, vacances et travail, c'est complètement mélangé, en fait. Il n'y a jamais. Je travaille 365 jours par an, en fait. Je travaille toujours. Mais
Oui, tout interrelié, en fait.
c'est ça, mais par contre, c'est pas forcément du travail, c'est aussi. Enfin, moi, je l'appelle même pas du travail parce que c'est plaisant, c'est quand même épanouissant. Donc, c'est pas forcément. Ça n'a pas
Je
la
comprends tout à fait.
connotation négative du travail habituel, quoi.
Je comprends et c'est marrant ce que tu dis parce que quand j'avais annoncé il y a quelques années maintenant à ma mère que je faisais des podcasts, elle me dit, ah, bah, ton métier, en fait, tu fais que t'amuser, quoi. Tu gagnes ta vie avec des podcasts. J'ai dit, c'est voilà, c'est une activité, c'est quelque chose que je fais à côté. Et c'est un petit peu pareil. Elle n'a jamais compris que ça puisse rentrer dans mon activité professionnelle de faire des podcasts ou de faire une vidéo ou même écrire un bouquin. Pour elle, c'est de l'amusement, quoi. Voilà.
Non, mais
Donc, c'est pas sérieux. C'est pas
c'est exactement
sérieux.
ça. Et en fait, ça, c'est voilà, c'est typique. Bon, déjà, il peut y avoir des différences intergénérationnelles. Et puis aussi, en fonction du milieu d'où on vient, effectivement, le niveau de compréhension de ce genre de choses n'est pas forcément le même, quoi. Donc, et ça, c'est vrai que c'est des vrais freins, parce que
Bien
se
sûr.
sentir compris par les personnes qui nous aiment le plus ou qu'on aime le plus, et notamment nos parents, c'est quand même un super moteur, quoi. Quand on a la chance d'être compris par eux et soutenu, c'est quand même assez génial, quoi. Donc voilà. Mais en même temps, il ne faut pas que ça nous empêche d'avancer.
Et c'est vrai que pourtant, c'est la réalité en tant qu'entrepreneur, c'est souvent les deux gros freins, c'est les très proches et puis nous-mêmes, souvent aussi, qui
Oui.
on peut représenter un frein et un obstacle à certains moments de notre évolution. Alors moi, ce que j'aimerais te demander, c'est si à un moment, en fait, tu t'es demandé, tu t'es dit, je n'y arriverai pas et au risque de tout abandonner. Est-ce que tu t'es posé cette question à un moment donné?
En fait, c'est une question abandonnée, non, parce que bah, alors, je suis quelqu'un d'extrêmement persévérant. C'est vrai que bon, j'ai fait de l'alpinisme quand j'étais adolescent. Donc j'ai fait quelques chemins assez difficiles physiquement, quelques épreuves physiques. Donc je n'abandonne vraiment pas facilement. Ça peut même être parfois un défaut de trop m'accrocher, un peu de l'obstination. Mais c'est quand même une question qui revient, par contre, enfin, c'est une question qui revient régulièrement sur le dessus de la table, parce que c'est quand même un métier très difficile, qui a énormément de sources de satisfaction, hein, bien sûr, hein, sinon on ne le ferait pas, mais avec beaucoup de liberté. Mais c'est vrai que bon, là, l'entreprise est quand même, a beaucoup grandi, donc c'est quand même dur. Souvent, il y a des épreuves, et donc c'est vrai qu'on y pense souvent, en fait, à se dire, mais est-ce que ça vaut le coup? Pourquoi pas, peut-être pas jeter l'éponge, mais voilà, passer à autre chose, avoir une vie plus tranquille, etc. Et puis au final, bon, bah, on prend un peu de repos, puis voilà, on repart. On repart à l'attaque. Donc, je dirais pas que j'ai pensé vraiment à abandonner, à jeter l'éponge, mais des doutes, oui, ça c'est sûr, régulièrement j'en ai.
Alors là, on a parlé un petit peu du passé. Maintenant, j'aimerais bien savoir ce que tu voudrais encore accomplir dans le futur pour te réaliser.
Alors là, tu vas faire mon bilan d'évolution professionnelle et personnelle. Alors bon, on a beaucoup de projets hein, chez Orientation, personnellement aussi. Moi, ce que j'aimerais, c'est arriver en fait à. Tu vois, juste avant l'interview, je voyais un poste où je découvre qu'il y a 8 millions de personnes qui sont dépressives en France, quoi. Et là, tout d'un coup, je prends conscience du nombre de gens qui vont pas bien. Et quand je vois toutes les méthodes que j'ai développées qui peuvent aider justement, enfin, je crois sincèrement que mes méthodes peuvent aider à guérir de la dépression un grand nombre de personnes, peut-être pas toutes, mais un grand nombre de personnes. Enfin, voilà, j'aimerais pouvoir faire connaître ces méthodes et les rendre accessibles et que les gens acceptent d'investir sur leur bien-être, en fait. Parce que ça, c'est un peu ma frustration du moment. Si je me dis, voilà, avec tout ce qu'on fait, qui est assez génial, quand je vois aussi les effets que ça produit, quand on a eu la chance de prendre un petit peu de temps pour faire un bilan, pour apprendre à se connaître, pour prendre les bonnes décisions. Enfin, je vois tous ces bénéfices-là, et finalement, je sens que dans la population, il y a encore beaucoup de freins ou de méconnaissances. Et donc voilà, ce que j'aimerais, c'est démocratiser un peu plus ce qu'on fait en fait. Ça, c'est vraiment quelque
D'accord.
chose que j'aimerais.
Et ben justement, à ton avis, quelle est ta plus grande force qui ben, te permettra de d'atteindre cette mission, mais aussi qui te permet d'être aujourd'hui le créateur, l'entrepreneur, le visionnaire que tu es? Quelle est ta plus grande force à ton avis?
Ma plus grande force, je pense que c'est ma créativité. C'est-à-dire que je suis un créatif insatiable, un créatif hyperactif. Donc je suis toujours en train de penser à un nouveau livre. J'ai à peine fini un livre que j'en ai déjà un qui est sur le métier à tisser, quoi. Donc voilà, j'ai besoin en permanence de créer, et ça, je garde. C'est ça, je pense que c'est ma force principale.
D'accord.
Parce que voilà, toujours amener
Une de
des
tes
nouvelles
valeurs fortes, la
idées.
créativité.
Ouais.
Et à contrario, quelle est ta vulnérabilité que tu dois régulièrement taquiner pour réaliser ce que tu veux?
Oh bah, c'est mon hypersensibilité. Je suis quelqu'un d'hypersensible. Donc, je suis assez. Alors, ce n'est pas les critiques. Les critiques, je peux les accepter, mais. Ce que j'ai du mal, c'est la méchanceté, cette espèce parfois de jalousie gratuite, parce que voilà, quand on a eu le courage, la chance et peut-être un petit peu le talent de créer des choses, bah, on fait des jaloux malheureusement, et parfois c'est d'une violence, c'est très dur en fait, ce qu'on reçoit. Et ça, je crois que c'est vraiment mon point de faiblesse, de faire trop attention à ces gens, en fait. Parce que j'arrive pas à comprendre. En fait, c'est quelque chose qui reste un mystère pour moi, en fait. Parce que comme je considère que l'homme est bon en lui-même, je n'arrive pas à comprendre qui est ça, en fait. Je me dis, mais ça sert à quoi, en
Eh
fait?
oui.
Et ça, c'est ma vulnérabilité.
D'accord. Ben merci de l'avoir partagé en tout cas. Et tu as une entreprise Orientation qui est assez importante et qui grossit assez rapidement. Alors moi, j'aimerais bien savoir quels sont tes secrets, tes routines qui te permettent d'être toujours en énergie, en présence et en forme dans tout ce que tu fais. Parce que c'est aussi une qualité qu'un entrepreneur doit avoir, prendre soin de lui. Pour durer et pour pouvoir affronter ce qu'il a affronté. Est-ce que tu as des secrets?
Alors déjà, je pense que c'est vraiment de toujours avoir une activité qui vraiment nous procure du plaisir. Donc même si on a une journée difficile à affronter, ce qui peut être le cas, on a toujours des choses qu'on doit faire et qui ne nous plaisent pas forcément aussi, hein. Il y a de tout, hein, dans l'activité humaine. Bien sûr, on essaie d'avoir une activité qui nous plaît un maximum, mais il y a toujours des choses qui nous plaisent moins. Mais c'est au moins une fois par jour de faire quelque chose qui nous donne du plaisir. Donc moi, c'est vrai que tous les matins, j'écris. J'ai ma routine, souvent 7h30, 9h ou 8h, 9h30, avant que d'entamer les rendez-vous, les réunions, etc. Vraiment, j'écris. Et ça, c'est ce qui me donne de la force. Voilà, donc ça, c'est un premier point. Après, bien sûr, pouvoir être bien entouré, donc avoir autour de soi quelques personnes de confiance avec qui on peut échanger assez librement sur les situations, pouvoir aussi exprimer ses émotions, même avec des collaborateurs, mais de confiance. Donc ça, je pense que c'est un deuxième point important. Et puis, bon voilà, déjà deux clés, quoi. Avoir vraiment, voilà, la routine,
Très
faire
bien.
quelque chose chaque jour qui nous procure du plaisir. Ça, c'est, je pense, c'est même le principal.
Très bien, merci. Alors, oser sa vie, c'est oser choisir ce qui est bon pour nous, c'est s'autoriser à se libérer de tous les modèles qui s'imposent à nous, mais aussi à utiliser notre passé comme un puissant catalyseur de notre bonheur présent et futur. Mais à ton avis, est-ce que tout le monde a les mêmes chances de devenir heureux et de pouvoir choisir sa vie?
Est-ce que tout le monde a les mêmes chances? Je pense que je l'ai cru longtemps et ça a été ma position pendant très longtemps. Aujourd'hui, je suis un petit peu plus modéré en fait, dans le sens de dire ben oui, on a tous la possibilité de choisir sa vie, mais effectivement, on part pas forcément tous du même point et on n'a pas tous le même soutien, les mêmes ressources. Donc, bien sûr, moi, voilà, je souhaite que tout le monde choisisse le plus possible sa vie. Mais comme on part avec des ressources différentes, eh bien, il va falloir en tenir compte. Et donc,
D'accord.
avancer pas à pas. Et donc, certains partiront de plus loin, certains partiront de plus près. Mais il faut l'accepter, voilà. Il faut accepter faut essayer d'être objectif avec soi-même, voilà, par rapport à ça.
Donc on peut choisir sa vie, mais les chemins seront différents et pas tous égaux dans l'adversité et la complexité.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Après, c'est la stratégie du pas à pas, c'est-à-dire que l'objectif, c'est d'essayer de se rapprocher le plus possible de la vie qu'on aimerait avoir. Et donc, pas à pas. Donc, ça va être un processus qui va être un petit peu plus long pour certaines personnes, pour X raisons, un petit peu plus rapide pour d'autres. Mais l'important, c'est le chemin, quoi. C'est de s'en rapprocher. C'est ça qui est intéressant.
D'accord. Alors, selon toi, quelles seraient les trois pistes à explorer pour vivre une vie libre et pleine de sens?
Les trois pistes à explorer. Bah écoutez, moi, enfin, écoute, après, c'est toute ma théorie en fait, hein, c'est tout ce que j'ai défini. Pour moi, ce qui permet d'atteindre une vie pleine de sens et une vie heureuse, c'est d'avoir une vie qui est la plus cohérente possible avec ses valeurs, donc ce en quoi on croit profondément, ce qui nous anime. Par exemple, moi, c'est la liberté, donc voilà, c'est essayer d'avoir une vie la plus libre possible. Donc les valeurs, après il y a les besoins, c'est ce dont on a besoin dans son quotidien pour se sentir bien. Il y a des personnes qui ont besoin d'être en permanence en relation avec d'autres, d'autres qui ont besoin de plus de solitude, d'autres qui ont besoin d'être dans des environnements très stimulants, d'autres plus calmes. Enfin, la notion de besoin est assez complexe, mais on peut, voilà, c'est vraiment de bien connaître ce dont on a besoin pour être heureux. Après, il y a la personnalité, hein. On a tous une personnalité profonde, donc je n'ai pas le temps de tout développer là dans le podcast, dans l'entretien, mais voilà, sa personnalité, c'est son mode de fonctionnement, donc c'est trouver aussi une vie qui est assez cohérente avec son mode de fonctionnement naturel. Et puis après, c'est aussi la question des talents, donc donc finalement, tu m'as demandé trois points, je t'en donne quatre, hein. C'est
Voilà,
les
très bien.
valeurs, les besoins, la personnalité, les talents, et d'essayer de trouver une vie qui va être le plus proche de tout ça, qui va nous permettre voilà, d'exprimer toutes ces
De nourrir
choses,
tout ça.
nourrir tout ça de la façon la plus simple possible.
D'accord. D'ailleurs, c'est des choses que tu détailles assez largement dans tes ouvrages.
Oui.
Alors, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à nos auditeurs qui n'osent pas faire le pas? C'est toujours ça. On a plein de bons principes, de bons conseils, mais il y en a qui n'osent pas, qui pensent que c'est impossible de changer ça, ou qui ne veulent pas changer, ou qui ont peur tout simplement. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller pour qu'ils commencent à prendre ce chemin-là?
En fait, la meilleure chose que je peux leur conseiller, c'est d'arrêter de réfléchir.
Ouais.
Parce que le problème, en fait, c'est que la réflexion, la pensée en général, c'est comme une sorte de. C'est un peu une soupape. C'est-à-dire que quand quelque chose ne va pas dans notre vie, on va se mettre à penser. Et on va se mettre à réfléchir à qu'est-ce qu'on devrait faire, etc. Et souvent, voilà, quand on pense, c'est qu'on n'agit pas. Et c'est qu'on ne change pas quand on pense trop. Donc en fait, plus on va agir vite, moins on va penser. C'est un peu comme quand on est sur un plongeoir et qu'il faut aller sauter dans la piscine. Bah, si on commence à réfléchir, on va jamais sauter. Donc bah, il faut sauter. Alors après, bah, le plongeoir, enfin pour prendre la métaphore du plongeoir, il peut être à 10 mètres de haut comme il peut être à 1 mètre de haut, quoi. C'est-à-dire que si on a le vertige et qu'on a peur, ça sert à rien d'aller plonger en haut d'un plongeoir de 10 mètres de haut. On va plutôt plonger d'un plongeoir d'1 mètre de haut. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est commencer par choisir une action qui nous permettrait déjà de changer notre situation et qu'on va être capable de faire. Donc il ne faut pas qu'elle soit trop difficile, finalement, cette première action. Il ne faut pas qu'elle nous demande trop d'efforts. Mais c'est d'en choisir une et de le faire. Et puis après, le lendemain, on en choisit une autre et on le fait. Et on va de plus en plus vers des actions de plus en plus difficiles, de plus en plus. Ouais, c'est ça, de plus en plus difficile.
D'accord. Donc c'est un peu la théorie des petits pas aussi. Commencer petit et puis se challenger petit à petit pour arriver là où on veut.
Exactement.
Bien pour conclure, Aymeric, quel dernier message tu aimerais délivrer à toute la communauté aux Emavis?
Toute la communauté Oser ma vie, je pense qu'elle est rassemblée autour de voilà de ce mot oser quoi. Donc c'est une forme d'audace. Je pense que c'est d'essayer de déjà de le faire, de devenir des exemples inspirants pour les autres. Ça, je trouve ça parce que c'est comme ça en fait qu'on amène un maximum de personnes à changer et à avoir une vie sympa. Et puis, c'est de continuer à oser parce que quelque part, c'est aussi ça le plaisir, quoi. Finalement, sortir de sa zone de confort, aller découvrir. Il y a un peu un côté aventure, moi, je trouve, dans le nom de ton podcast. Et c'est ça que je trouve assez génial dans le changement, c'est que ça reste une aventure. Et on est dans un monde où, voilà, peut-être qui est plus aseptisé qu'il y a 100 ans ou 200 ans. Mais il reste plein d'aventures à vivre et à travers son travail, à travers des voyages, à travers des activités sportives. Enfin voilà. Et donc c'est ça, c'est de garder cet esprit aventurier. Voilà.
Oui, c'est vrai. Eh bien, écoute, je te remercie. Puis, si tu veux bien, nous allons terminer par notre instant question-réponse flash. En fait, je te donne des affirmations et tu me réponds du tac au tac, OK?
Ok.
Si tu étais un animal, tu serais...
Un animal, une girafe, c'est en référence à mon dernier livre, Les girafes ne vivent pas au pôle Nord. Voilà.
OK. Ta couleur préférée, le jaune? Du coup.
Non, c'est le bleu.
D'accord. Plutôt fromage ou dessert?
Dessert.
Un objet dont tu ne peux pas te séparer.
Mon ordinateur.
Une qualité que tu sais voir chez toi.
Persévérant.
Le souvenir d'une bonne odeur dans ta jeunesse.
Le goût du chocolat coupé en petits morceaux par ma grand-mère sur une tartine de beurre.
Ok, très bien. Plutôt musique classique ou musique rock?
Oh, plutôt rock.
Plutôt mer ou montagne?
La mer.
Si tu étais une émotion, tu serais...
La colère. Parce que la colère, c'est une émotion très négative qui peut être associée à la violence, mais c'est aussi ça qui nous donne la force de changer.
Ok, bien. Plutôt entrecôte frites ou tofu salade?
Allez, tofu salade. C'est pas
C'est
vrai,
dur.
mais bon, c'est ce que j'aimerais.
Faut se donner bonne conscience alors.
Voilà, c'est ça.
Le mot grossier que tu utilises le plus.
Ah oui, mais je peux pas le dire. C'est pas poli.
Ah, on peut s'autoriser là, on peut oser, hein.
Non, je vais pas le dire.
Ok, d'accord. Et une source d'inspiration pour toi.
Une source d'inspiration, le voyage. Vraiment,
D'accord.
les voyages, c'est ça là, qui inspire, je trouve.
Alors Aymeric, je te remercie du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec nous de façon si généreuse et si authentique. Alors merci beaucoup. Et puis pour terminer, je te poserai encore une dernière question. Quels sont tes projets pour cette année ?
Mes projets, alors là, je termine un livre sur l'histoire du colonel Sanders, qui est le fondateur de KFC. Donc c'est une histoire, enfin c'est un personnage qui est assez truculent, une espèce de cow-boy américain là, qui sort du 19e siècle, qui a fondé KFC. Et donc c'est un livre dont vous êtes le héros. Donc c'est un livre assez. Voilà, pour apprendre à convaincre. Voilà, donc c'est un mélange d'imaginaire, de jeu et de. Voilà, donc ça m'amuse bien.
Eh bien, Aymeric, merci. Et puis, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet, sur les réseaux sociaux ou sur tes événements à venir ?
Bah, sur LinkedIn ou sur notre site orientaction-group.com.
D'accord. Et de toute façon, tous les liens seront dans la description de cet épisode. Eh bien, écoute, je te remercie encore pour ce temps passé et pour ta générosité.
Un grand merci à toi.
Et je te dis à très bientôt. Alors rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Osez ma vie. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bye. Merci pour votre attention. C'était Frédéric May pour l'émission Osez ma vie. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet coaching-personnel.fr. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à réagir en commentaire ou à me laisser un petit audio ou à lever le pouce pour aimer ce podcast. Enfin, je reste disponible pour vous donner toutes les informations sur mes accompagnements Osez ma vie, Osez mon job ou Osez mon business et établir avec vous un plan d'action personnalisé. Prenez soin de vous et à très bientôt !